Bonjour à chacun, vraiment content de vous retrouver ce matin autour de la parole, encore dans des circonstances particulières, il est vrai, mais content d'être ensemble, ensemble, même si nous sommes chacun chez soi, ensemble pour ouvrir la parole de Dieu, pour écouter ce qu'il a à nous dire, pour être réconforté par lui, pour être renouvelé par sa parole. Et ce matin, j'aimerais vous partager un psaume que je vous avais partagé il y a quelques années. Mais que je trouve particulièrement approprié dans les temps que nous traversons. Et c'est pour ça que j'ai voulu m'y replonger et j'ai aussi voulu vous repartager les pépites que l'on peut y trouver. Il s'agit du psaume 33. Alors, si vous avez une Bible, prenez-la. On va lire ensemble les trois premiers versets. Si vous avez cette Bible-là, c'est la page 378. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange convient aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Louez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Dans ces trois premiers versets, on a un appel à louer l'Éternel. On a plusieurs mots, plusieurs expressions qui nous invitent, qui nous appellent à louer Dieu. Chantez-le. Faites retentir vos voix, faites retentir vos instruments, réjouissez-vous en lui, célébrez-le, louez-le sur vos luths. On n'a pas de luth, bien sûr, mais on a des instruments. Toute cette première partie du psaume est une invitation pour tout le peuple à louer Dieu. Mais c'est bizarre peut-être de lire cette invitation au milieu de la période que nous traversons. Cette période vraiment particulière, certains parlent de crise, d'état d'urgence, même de temps de guerre. C'est le vocabulaire qui est employé en ce moment. On voit que les hôpitaux sont saturés, que le matériel, le personnel manquent, que l'économie était au bord de l'explosion. Et on voit aussi que ces dernières semaines ont fait ressortir ce qu'il y a au fond du cœur de l'être humain. Et on voit des belles choses, on voit des manifestations de soutien, de solidarité. On voit le soutien le soir quand les personnes applaudissent depuis leur fenêtre ou leur balcon, le personnel soignant. Mais on voit aussi la noirceur de l'être humain. On voit aussi la noirceur du cœur humain qui va dérober des masques dans les voitures, qui va voler des choses au personnel soignant. Et tout ça révèle notre peur, notre anxiété, notre égoïsme, notre repli sur soi. Et peut-être que cela, pour nous chrétiens, révèle aussi nos doutes, nos questionnements. Et je suis sûr que tous, chacun d'entre nous est passé par un état ou un autre pendant ces dernières semaines. Quand les crises arrivent et que nous sommes remués, eh bien, comme quand on remue la vase, tout ce qu'il y a au fond revient à la surface et cette période de crise a révélé quelque part ce qui se trouvait en nous. Alors comment peut nous en tant que chrétiens se réjouir pendant ce temps de crise? Comment nous on peut avoir et communiquer de la joie dans cette période particulière? Comment on peut célébrer et louer le Dieu malgré ce qui arrive? Je vous propose que la piste principale, c'est justement en regardant Dieu, en regardant qui il est. Et plus on se tournera vers lui, et plus on le regardera, et plus on aura des raisons de le louer. Et ce matin, j'aimerais en particulier qu'on prenne un peu de recul et qu'on se serve de ce psaume pour trouver des raisons d'être confiant en Dieu et de trouver en lui notre joie. J'aimerais lire à la suite du psaume, donc à partir du verset 4. Le verset 4 d'ailleurs. À partir du verset 4, on va développer les raisons de louer Dieu. Le verset 4 commence par car. Car la parole de l'Éternel est droite et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Il aime la justice et le droit. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Le ciel a été fait par la parole de l'Éternel et toute son armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle les eaux de la mer. Il garde les océans dans les réservoirs. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il parle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les plans des nations, il anéantit les projets des peuples. Mais les plans de l'Éternel subsistent éternellement, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit comme son héritage. L'Éternel regarde du haut du ciel, il voit tous les hommes. Du lieu où il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui a façonné leur cœur à tous, il est attentif à toute leur action. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas sa grande force qui délivre le guerrier. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur est incapable de procurer la délivrance. Mais le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin de les délivrer de la mort et de les faire vivre, même en temps de famine. Nous espérons en l'Éternel. Notre secours et notre bouclier, c'est lui. Oui, c'est en lui que notre cœur se réjouit, c'est en son saint nom que nous avons confiance. Éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. Et je vous propose que dans ce texte, il y a deux aspects en particulier, même un troisième, on le verra, qui nous aide particulièrement dans cette période, qui nous aide à avoir confiance et à trouver notre joie en Dieu malgré les circonstances. Ces deux aspects font partie de la providence de Dieu. C'est d'abord que Dieu est souverain sur toute la création et que Dieu est bon pour ses enfants. D'abord, Dieu est souverain sur toute la création. On voit que tout est décidé par Dieu. On voit dans ce psaume un Dieu puissant qui peut tout. Et pour parler justement de cette souveraineté de Dieu qui agit comme le roi qui décide de tout ce qui arrive sur sa création, le psalmiste, on le voit, fait une espèce de zoom, comme si on était dans Google Earth et qu'on partait du ciel et qu'on zoomait sur la terre. Regardez verset 6, Dieu a tout créé, le ciel et toute son armée. Verset 7, la mer et les océans. Et ensuite, on se rapproche, on nous dit que Dieu crée tout et qu'il maintient tout par sa parole. Il amoncelle les eaux de la mer et il garde les océans en place. Il parle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Verset 9. Et ça fait écho aux paroles de l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dit tout au début de sa lettre que Dieu, par son Fils, a créé le monde et que par lui, il soutient toute chose par sa parole puissante. Versets 2 et 3 de Hébreux 1. On continue le zoom et on voit que l'auteur se rapproche, il parle des habitants de la terre, verset 8, des nations et des peuples, verset 10. Il se rapproche encore plus et il nous dit que Dieu a façonné le cœur de tous les habitants de la terre, verset 14. Et parmi tous ces habitants, verset 18, il nous dit que Dieu est particulièrement attentif, qu'il veille particulièrement sur ceux qui le craignent, sur ceux qui placent en lui leur confiance. Et dans tout ce zoom, dans toute cette plongée, il y a une idée qui subsiste. Il y a une idée qui est un peu comme le squelette de chaque verset qui tient toute cette partie. Cette idée, c'est que Dieu contrôle tout. On voit que Dieu contrôle l'univers, que rien n'échappe à sa toute-puissance, que tout ce qu'il dit s'accomplit, l'univers obéit au son de sa voix. Et là, on a des échos du livre de la Genèse qui nous montrent de la manière par laquelle Dieu a créé tout par sa parole puissante, qui nous montre que Dieu est unique. Pourquoi ? Parce qu'il est à l'origine de tout ce qui existe. La création générale et l'homme en particulier. Et c'est d'ailleurs pour ça que le psalmiste nous dit que les hommes doivent craindre Dieu, verset 8. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui les a tous créés et parce que tout ce qu'il dit s'accomplit parfaitement. Et on voit que non seulement Dieu contrôle l'univers, mais Dieu aussi contrôle l'histoire et les nations. Et quand on lit l'Ancien Testament, on se rend compte que les histoires qui composent la Bible ne sont pas juste une collection prise au hasard. Mais cette collection d'histoires nous montre la grande histoire. Elle nous montre que ces histoires ont un angle particulier, qu'elles ont un but particulier. Montrer comment Dieu déroule son plan dans le temps et parmi les peuples. On voit notamment dans l'Ancien Testament que que Dieu ne s'intéresse pas seulement au peuple d'Israël, mais à tous les peuples. C'est lui qui orchestre leur histoire. C'est lui qui met en place les rois, nous dit Daniel. C'est lui qui se sert des nations pour accomplir son dessein. Et on voit ici, ou là, surtout dans les prophètes, la manière dont Dieu va se servir des nations, même les nations qui ne le craignent pas pour accomplir ses desseins. Et c'est pour ça que ici le psalmiste peut dire avec assurance que ce n'est pas ce que projettent les nations, ce n'est pas ce que projette l'homme qui s'accomplit, mais c'est ce que Dieu a décidé. C'est lui qui dirige non seulement la création générale, mais l'histoire en particulier, les mouvements de l'histoire. C'est lui qui dirige les nations en général, les hommes en particulier. Tout ce qui arrive sur terre est décidé par Dieu. Rien n'échappe à sa volonté, rien n'échappe à son contraire, à son contrôle. Et on aurait tort de croire que aujourd'hui il en est autrement. Dieu n'a pas changé, sa souveraineté non plus. Dieu continue d'être aux commandes et Dieu continue d'accomplir toutes choses selon son dessein. Il y a cette parole fameuse de Charles Spurgeon, célèbre prédicateur anglais, qui dit: Je crois que chaque grain de poussière qui danse dans les rayons de soleil ne bouge pas d'un atome de plus ou de moins que ce que Dieu veut. Et de la même manière, Calvin aussi dit dans son institution, chaque goutte de pluie qui tombe a été décidée par Dieu. Et on a cette vision glorieuse que pas une feuille ne tombe dans l'univers sans que Dieu en ait déterminé la chute. Il détermine la course exacte des vagues. Il détermine le volume des avalanches. Il détermine le bruit des chutes d'eau. Il détermine la couleur exacte des aurores boréales. Et le psalmiste veut nous le souligner. La providence de Dieu, c'est celle qui contrôle tout et qui dirige tout. Et cette providence de Dieu, elle doit nous rassurer à nous. Pourquoi? Parce que d'abord, cela veut dire que nous ne sommes pas en proie au hasard. Tout ce qui arrive, c'est ce que Dieu a décidé. C'est ce que Dieu a décidé dans sa sagesse parfaite, dans sa juste volonté. Tout ce qu'il a décrété s'accomplit et rien n'arrive par hasard. Et c'est vrai que parfois, de notre point de vue, les choses peuvent arriver, il nous semble, de manière fortuite. Mais il nous faut nous rappeler avec ce psaume que Dieu contrôle tout. Il nous faut ra nous rappeler dans cette période du coronavirus que Dieu contrôle tout. Dans cette épidémie, ce n'est pas le hasard qui gouverne les événements. Ce n'est pas juste des facteurs biologiques. Ce n'est pas juste des facteurs sociaux, des facteurs humains. C'est Dieu qui contrôle. Il reste au contrôle. Même quand nous voyons cette épidémie qui semble se développer tous azimuts. Dieu dirige toute chose. Il est au-dessus de tout. Pas un moineau ne tombe sans l'accord de notre Père, nous dit Jésus. Deuxième chose, cela veut dire aussi que Dieu n'est jamais dépassé. Dieu n'est pas pris au dépourvu. Il sait exactement ce qui se passe, il sait exactement ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a décidé, parce que tout se déroule selon son plan. Et s'il y a une chose aussi que la crise actuelle nous montre, c'est qu'on est facilement dépassé. On est facilement dépassé pour plusieurs raisons, parfois par notre manque de préparation, parfois par notre insouciance. Et cela, on n'en a pas manqué. On le voit, hein, que beaucoup ont du mal à se saisir de la réalité de ce que nous traversons. Parfois par nos mauvais choix du passé ou par nos erreurs. Parfois par une mauvaise gestion, une mauvaise direction, une mauvaise communication, des erreurs de calcul. Et si on devait résumer, peut-être employer des mots plus théologiques, on pourrait dire que on est dépassé d'une part à cause de notre finitude en tant qu'être humain et à cause de notre péché. Mais c'est précisément ce que Dieu n'est pas. Dieu n'est pas fini et Dieu est parfaitement juste, parfaitement bon, parfaitement saint. Dieu n'est pas fini, il est infini dans sa sagesse, infini dans sa puissance, infinie dans sa connaissance. Il sait tout, il peut tout. Et Dieu est bon et Dieu est saint et rien de ce qu'il fait porte la marque du péché. et rien de ce qu'il fait ne crée l'erreur ou ne nous induit en erreur. Et c'est pour ça que nous pouvons avoir confiance en lui, parce que lui n'est jamais dépassé par les événements. Et quand tout semble nous submerger au niveau personnel, au niveau national ou international, nous avons un Dieu qui est là, un Dieu qui prend soin de nous, un Dieu qui est au contrôle et un Dieu qui sait où il nous mène. On l'a vu quand on a fait Romains 8 ensemble, que les plans de Dieu pour ses enfants nous mènent à la gloire à venir, la gloire éternelle. Et on sait que tout ce que nous traversons, d'une part, ne pourra pas nous éloigner de son amour, et d'autre part, ne pourra pas nous dévier de notre but qui est la gloire éternelle. Et cela devrait nous rassurer au plus haut point de savoir que Dieu prend soin de nous et que c'est lui qui non seulement connaît et donne la direction, mais c'est lui qui est au contrôle de l'embarcation. Et nous devons nous laisser conduire par lui en lui faisant confiance, parce que lui sait où nous allons et c'est lui qui contrôle l'embarcation. On voit que la situation du monde, la situation de notre pays, notre situation personnelle peut nous dépasser. Et peut-être certains d'entre nous ont été secoués particulièrement ces dernières semaines, à la fois pour eux-mêmes, mais aussi pour les gens qu'ils connaissent et qu'ils aiment. L'inquiétude peut nous gagner, mais prenons courage, mes amis. Notre Dieu veille, notre Dieu n'est pas dépassé et rien de ce qui arrive ne le prend au dépourvu. Que nos cœurs s'apaisent. Celui qui a façonné justement nos cœurs, il nous connaît, il nous aime et son regard est posé sur nous. Et c'est le deuxième aspect de la providence de Dieu que ce texte soulève, c'est que Dieu est bon pour ses enfants. Et on voit encore une fois que la Bible dans son ensemble et dans ce psaume, Dieu n'est pas présenté comme un Dieu lointain qui laisse les humains se débrouiller. On a cette vision, parfois on entend que Dieu serait un horloger, qu'il a construit le monde, il a remonté l'horloge et il laisse ensuite le monde et la création se débrouiller. Et dans cette vision-là, Dieu ne contrôle pas. On a un Dieu qui est lointain, qui est détaché de sa création, un Dieu qu'on ne peut pas connaître personnellement. Mais ce n'est pas ce Dieu que nous présente ce psaume. L'auteur nous parle de sa bonté. Peut-être que dans votre version, vous avez la bienveillance. Il nous dit, il est fidèle, verset 4. Il est juste, droit et bon, verset 5. Et ce mot qui est traduit ici par bonté ou bienveillance, c'est un mot qu'on retrouve souvent dans l'Ancien Testament. On a eu l'occasion d'en parler déjà. C'est le mot chesed. C'est un mot qui est difficile à traduire parce qu'il recouvre plusieurs sens. Et c'est un mot qui souligne la bonté de Dieu, sa bienveillance, en particulier liée à son alliance. Et on voit la manière dont Dieu s'engage envers son peuple, et il est fidèle dans son amour, il est plein de bienveillance et plein de grâce. Et comment ce Dieu souverain, justement, comment ce Dieu tout-puissant manifeste sa gloire en révélant sa bonté? Souvenez-vous ce passage dans Exode 33, où Moïse fait cette demande un peu particulière à Dieu, il dit, fais-moi voir donc ta gloire. Fais-moi voir donc ta gloire. Que répond l'Éternel? Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. J'ai compassion de qui je veux avoir compassion. C'est quelque chose que le psaume 145 souligne. Également, il dit, l'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. C'est aussi ce que souligne notre psaume, verset 5, quand il dit que la bonté de Dieu remplit la terre. Et donc, on a cette vision d'un Dieu qui est tout-puissant, qui est souverain, qui crée par sa parole, qui maintient toutes choses, qui décide de tout, à la fois de la création et de l'histoire et des plans des nations. Et on a cette image d'un Dieu qui n'est pas indifférent au sort des hommes, qui observe tous les hommes. Regardez au verset 13, 14 et 15. Il nous connaît parfaitement. Pourquoi? Parce qu'il nous a formés et il sait tout ce que nous faisons. Et d'ailleurs, dans ces versets 12 à 15, on voit encore une progression. Au verset 13, on voit que Dieu regarde et voit tous les hommes. Ensuite, verset 14, qu'il observe. Et verset 15, qu'il est attentif. Tout ce psaume souligne que Dieu n'est pas lointain. Que ce Dieu tout-puissant, qui contrôle tout, qui dirige tout, n'est pas un Dieu lointain et inaccessible. Il n'a pas une vision vague parce qu'il est trop loin, un peu comme quand nous on regarde l'horizon et que c'est un peu flou. Son regard, il est clair, il est précis. Pourquoi? Parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a formés. Et c'est particulièrement vrai pour ceux qui le craignent. C'est sur ceux qui le craignent que son œil est particulièrement posé. Et regardez au verset 18 le parallèle entre ceux qui le craignent et ceux qui s'attendent à sa bonté. Ceux qui placent leur confiance en Dieu, ils ne le font pas parce que Dieu peut les punir, mais parce que Dieu est bon envers eux. Et la foi n'est pas l'expression de notre peur, mais la confiance en sa bonté. Et cette expression qu'on trouve au verset 18, le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, c'est pas juste là pour souligner que Dieu nous observe. C'est pour souligner le soin que l'Éternel prodigue à ceux qui espèrent en lui, ceux qui espèrent en sa bonté. C'est une expression qui proclame sa bénédiction, la bénédiction à laquelle peuvent s'attendre tous ses enfants. Le regard de Dieu est sur ceux qui le craignent. Il prend soin d'eux. Il prend soin de nous. Nous n'avons pas un Dieu lointain. Nous n'avons pas un Dieu indifférent. Nous avons un Père céleste qui prend soin de ceux qui l'aiment, qui prend soin de ses enfants. Il sait ce dont nous avons besoin. Et on a ces deux premiers points, donc que Dieu contrôle tout, ce deuxième point, que Dieu est bon envers ses enfants, et il s'insère en quelque sorte dans ce troisième point. On voit la souveraineté, la bienveillance de Dieu qui se voit le plus clairement dans son salut, dans la délivrance. Et c'est dans le contexte d'une victoire militaire que probablement l'auteur reconnaît que le salut lui vient de Dieu. Il sait que sa victoire, il ne la doit qu'à l'intervention de Dieu. Le psaume, on le voit, il est construit avec des parallèles, on voit de nombreuses choses qui se répètent, mais on voit aussi qu'il est construit sur des contrastes. Par exemple, on voit que l'auteur contraste les projets des nations avec ceux de Dieu. Pourquoi? Pour mieux souligner que ce n'est pas la volonté humaine qui s'accomplit, mais c'est celle de Dieu. Mais le plus gros contraste, c'est peut-être celui qu'on voit au verset 16 et 17. Celui qui oppose la capacité, ou plutôt l'incapacité de l'homme de se sauver, et la capacité de Dieu à le sauver. L'homme compte sur sa force, sur sa puissance militaire, sur ses tactiques. Mais tout cela n'est rien comparé au Dieu de l'univers. On le voit, tout cela n'est qu'illusion face au Dieu qui a créé et qui contrôle les océans par sa parole et qui dirige le destin des nations. Et souvent, on voit la Bible, notamment dans l'Ancien Testament, mais on en a les échos dans le Nouveau et surtout les échos dans nos vies, la manière dont nous voulons gagner des batailles sans l'appui de Dieu. Nous voulons gagner des batailles par nos propres forces. Nous voulons gagner et vaincre nos ennemis en comptant sur notre volonté, sur notre sagesse, sur notre intelligence, sur notre force. Mais on voit que sans le secours de Dieu, depuis toujours, la victoire se tient loin de nous. Et on est tous pareils. On place notre confiance en quelque chose et souvent, on place notre confiance en nous, dans notre santé, notre intelligence, dans notre apparence, notre capacité, notre patrimoine, notre famille, dans ce qu'on a déjà fait. Et on se dit qu'on y arrivera. Mais comme les chevaux au temps du psalmiste, toutes ces choses sont illusoires. Au final, elles ne délivrent pas. Et on aura plus tard, dans les paroles de Jérémie, ces versets, je vous lis dans Jérémie 9. Voici ce que dit l'Éternel, que le sage ne se montre pas fier de sa sagesse, que le fort ne se montre pas fier de sa force, que le riche ne se montre pas fier de sa richesse. Mais que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans ceci. Le fait d'avoir du discernement et de me connaître. En effet, c'est moi, l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Oui, c'est cela qui me fait plaisir, déclare l'Éternel. Il y a quelques jours, notre président Emmanuel Macron a répété plusieurs fois une formule qu'il a choisie pour être un peu une formule coup de poing pour caractériser la situation dans laquelle on est. Il a répété plusieurs fois dans son discours, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. La vérité, c'est que nous, en tant que chrétiens, on est en guerre contre un ennemi qu'on ne voit même pas au microscope. Et un ennemi dont le taux de mortalité est de 100%. Le péché. Et c'est ça notre vrai ennemi. Un ennemi encore plus grand que le coronavirus. Un ennemi qui fait encore plus de dégâts. Un ennemi qu'on devrait craindre. Et un ennemi qui ne peut se vaincre ni par la science, ni par nos capacités, ni par nos prouesses médicales, ni par la nation qui fait front et qui s'unit. Seul Dieu peut vaincre le péché. Et le psaume nous rappelle que la solution n'est pas en nous, mais en Dieu. Et c'est en lui que nous devons chercher le secours. Et si le psalmiste peut trouver sa joie, s'il peut placer sa confiance en Dieu, c'est parce que Dieu vient très probablement de le délivrer de ses ennemis. Et on voit que cette joie, cette confiance, c'est le résultat de la délivrance et de la confiance dans le Sauveur, dans celui qui l'a délivré. Et parfois, peut-être c'est le cas aujourd'hui, peut-être c'est le cas ces dernières semaines, les situations qu'on traverse peuvent nous enlever notre joie, ils peuvent nous enlever notre confiance. Repensons à la croix. Méditons ce qui s'est passé à Golgotha. La croix, c'est l'endroit où nous voyons le plus clairement la souveraineté, l'amour et la délivrance de Dieu. On voit à la croix la souveraineté de Dieu sur le plan des hommes. Et quand on voit l'histoire de Jésus, on voit que Jésus a été trahi, qu'il a été victime d'un complot. Et d'un regard extérieur, tout nous paraît perdu. On a cette histoire et on a l'impression d'un échec monumental. Mais la Bible nous dit une parole que j'ai souvent l'occasion de citer. En vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. C'était un vrai complot. Il y avait vraiment un complot contre Jésus. Il y avait vraiment une ligue contre le oint de l'Éternel. Mais le verset continue, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Et la mise à mort de Jésus, c'était pas seulement le fruit des plans malicieux de ceux qui s'étaient ligués contre lui. C'était le résultat du plan de Dieu. Tout ce qui arrive est décidé par Dieu. Et la croix nous le montre peut-être le plus clairement. Que à nos yeux, aux yeux des hommes, à notre échelle, ça peut nous paraître un échec, ça peut nous paraître perdu. Les circonstances peuvent nous paraître défavorables, mais c'est toujours le plan de Dieu qui s'accomplit. On voit à la croix aussi la bienveillance de Dieu. Je lis dans Romains 5, en effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste, peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. La Bible nous dit que la plus grande preuve de l'amour de Dieu, c'est que Dieu nous a donné Jésus-Christ, qu'il est mort alors que lui était innocent à notre place, qu'il est mort alors qu'il méritait la vie pour que nous qui méritions la mort, nous ayons la vie. Et à la croix, Dieu nous montre son salut et sa délivrance, peut-être aussi le plus clairement. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La croix nous montre la délivrance de Dieu et sa puissance sur la mort et sur le péché, l'ennemi invisible que nous devons tous combattre, qui est plus à craindre que tous les virus qui peuvent circuler. Et il est plus à craindre, pourquoi? Parce que cet ennemi-là peut nous séparer de Dieu. peut nous séparer de Dieu. Alors que pour les enfants de Dieu, le coronavirus ni rien d'autre ne peut nous séparer de Dieu. On l'a lu dans Romains 8 ensemble récemment. Et ce cantique nouveau dont parle le psaume, ce chant de victoire après la délivrance, il prend une dimension particulière pour nous qui vivons après la croix. Ce chant de victoire, on peut le chanter même dans nos circonstances. Parce que malgré tout ce qui arrive, nous avons déjà été délivrés de cet ennemi mortel dont je parlais, le péché. Nous avons déjà été délivrés et on est déjà au bénéfice de la souveraineté et de la bienveillance de Dieu à notre égard. Christ est mort, mais Christ est ressuscité. Il a vaincu la mort. Et nous pouvons chanter ensemble ce cantique nouveau qui célèbre sa victoire. Et au début, vous vous rappelez, au début du psaume, on a cet appel à louer Dieu, ces trois premiers versets. Et à la fin du psaume, on a trois versets aussi, les versets 20, 21, 22, qui sont la réponse à cet appel. Je vous les relis. Nous espérons en l'Éternel, notre secours. Et notre bouclier, c'est lui. Oui, c'est en lui que notre cœur se réjouit. C'est en son saint nom que nous avons confiance. Éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. Quand on fixe les yeux sur Dieu, on les détourne de nous-mêmes. On les détourne de notre situation, on les détourne de nos circonstances. Quand on fixe les yeux sur Dieu, sur sa souveraineté, sur son amour, sur sa délivrance, on peut répondre à l'appel qui nous était adressé. Et c'est vrai que ça peut être difficile, mais c'est possible. C'est possible de répondre à cet appel de louer Dieu, de le célébrer, de se réjouir en lui. Pourquoi? Parce que lui est au-dessus de tout. Parce que lui nous aime d'un amour parfait. Parce que lui nous délivre de la mort. Parce que lui nous a sauvés de notre pire ennemi. Et après, les raisons que l'auteur énumère, le psalmiste nous invite à deux choses. Il nous invite à trouver en lui notre joie et à placer en lui notre confiance. Et regardez, de quoi nous avons besoin, c'est lui. C'est répété trois fois, notre secours, notre bouclier, c'est lui. C'est en lui que notre cœur se réjouit. C'est en son saint nom que nous avons confiance. Ce dont nous avons le plus besoin dans cette situation. Ce dont nous avons le plus besoin dans cette période de confinement, dans cette période d'incertitude, dans cette période de doute quant à l'avenir de notre pays, quant à l'avenir de notre situation économique, et même quant à l'avenir de notre propre vie et de ce qu'on aime, dans cette période, il nous faut nous confier en Dieu. C'est lui qui est la réponse. Et c'est seulement quand nous faisons cela que nous pouvons retrouver notre joie. C'est seulement quand nous faisons cela que nous pouvons retrouver notre confiance. Et c'est seulement quand nous faisons cela que nous pouvons répondre à l'appel du psalmiste de ces trois premiers versets de le célébrer et de le louer. C'est en regardant à Dieu directement. Et on peut placer notre confiance en lui. Pourquoi? Parce qu'il contrôle tout. Il contrôle tout. Et c'est vrai, s'il ne contrôlait pas tout, à quoi bon lui faire confiance? Mais on l'a vu, il est maître de la nature, il est maître du temps, il est maître de l'histoire. Ce sont ses plans qui s'accomplissent. Et ses plans s'accomplissent dans sa justice, on le voit au verset 5, dans son amour qui remplit la terre. Et on peut se confier en Dieu parce qu'il est bon. Et on peut compter en lui et en sa puissance. Et le psaume s'ouvre et se ferme avec cette idée de la joie. Et je vous invite, je nous invite dans cette période particulière à être déterminés par la joie et la confiance. C'est peut-être les deux choses qui font le plus défaut quand la crise s'installe et quand la crise dure. Les gens vont gagner en morosité et on va voir le doute s'installer. Mais que nous puissions tourner les regards vers Dieu ensemble et qu'il puisse être notre confiance, qu'il puisse être notre bouclier, celui vers qui on se réfugie, celui en qui on espère. Pourquoi? Parce qu'il est bon pour ses enfants, il est bon pour nous, il est bon pour tous ceux qui se tournent vers lui. que nous puissions être caractérisés par la joie et la confiance, et que ça fasse partie de l'espérance dont nous pouvons témoigner autour de nous, quand nous retournerons peut-être au travail, ou quand nous appellerons nos familles, nos amis, quand nous enverrons des messages, nous pourrons témoigner de la confiance et de la joie que nous avons malgré les circonstances. Pourquoi ? Parce que notre Dieu est au contrôle et prend soin de nous. J'espère que ce psaume vous a autant encouragé qu'il l'a fait pour moi cette semaine. Et j'aimerais conclure en priant. Père Céleste, merci pour ce psaume qui nous rappelle ta puissance. Merci pour ce psaume qui nous rappelle que tu es au-dessus de tout, au-dessus de nous, au-dessus des nations, au-dessus de l'histoire, et que c'est toi qui contrôles le cours des choses, et que dans cette pandémie, rien ne t'échappe. Et merci parce que même si tu es au-dessus de tout, tu es près de nous, tu veilles sur nous. Ton regard est posé sur tous ceux qui te craignent. Et tu nous délivres et tu nous sauves de cet ennemi implacable. Tu nous sauves du péché. Aide-nous, Seigneur, à faire de toi notre secours, notre bouclier, et à nous réjouir en toi, à trouver dans ton nom les raisons de nous réjouir. Et Seigneur, que ensemble, en Église, on puisse s'encourager par ces paroles, qu'on puisse s'encourager en regardant tous à toi, en regardant à qui tu es, à tes attributs, et en comptant les bienfaits dont tu nous combles, à commencer par la croix et le sacrifice de ton Fils pour nous. Merci pour ta parole qui est un puissant encouragement dans cette période de confinement. Sois loué, sois béni, Seigneur, pour ta bonté et ta grandeur. Amen. Très belle semaine à chacun et à très bientôt.